Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Hugo de Hugo Décrypt. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur le podcast de l'interview de Mashup. Alors chaque semaine, je reçois une personnalité, quel que soit le domaine, ça peut être un artiste, un journaliste, un sportif ou encore un youtubeur, avec qui je me pose dans le salon, confortablement installé dans les fauteuils, pour revenir sur son parcours et sur les points de bascule de sa vie. Ça donne des échanges très souvent riches en enseignements. Bienvenue du coup, si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les suivants. Je terminerai avec deux petites infos supplémentaires. Cette interview se fait dans le cadre de mon émission Mashup, diffusée sur la chaîne Twitch Hugo Décrypt chaque mercredi à 20h. Donc pour vivre cet échange en direct, rendez-vous directement sur Twitch chaque mercredi. Et par ailleurs, pour découvrir le reste de l'émission Mashup en podcast et notamment les actualités, eh bien vous pouvez taper Mashup les actus directement sur votre application de podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Bonjour Alice. Bienvenue. Bonjour. Déjà sur ce plateau, t'es bien installée, ça va?
Je suis très bien.
Très bien, c'est une bonne première étape, jusqu'ici tout va bien. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas encore, tu es, on pourrait le dire, multicasquette, ce mot qui veut tout rien dire, mais à la fois auteur, compositrice, interprète de musique tout simplement, derrière un nom de scène qui s'appelle Alice et moi, qu'on va peut-être pouvoir évoquer tout à l'heure pour comprendre d'où vient d'ailleurs ce nom. T'as sorti en 2017 ton premier EP qui s'appelait Filme-moi, et puis t'as enchaîné avec un deuxième EP qui s'appelle Frénésie. Ça c'est en 2019, et puis ensuite il y a eu un album studio il y a quelques mois qui s'appelle Drama. Plusieurs de tes titres t'ont fait connaître auprès du grand public, donc Filme-moi notamment, C'est toi qu'elle préfère, ou encore Je vais sortir avec un rappeur, on va pouvoir en parler, et c'est un succès qui est venu progressivement, hein, comme pas mal d'artistes, avec aujourd'hui plusieurs millions de streams ou vues sur un certain nombre de sons. Et ton parcours est particulier, on va pouvoir en parler. C'est l'occasion de rappeler, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas encore le format d'interview mashup, qu'on va se concentrer sur les points de bascule, donc les moments qui ont fait dans ta vie que t'es là où t'es aujourd'hui, et à chaque fois, il y aura des enseignements pour tout le monde, forcément via ton parcours, via les enseignements que tu as pu avoir à travers ton histoire. On va commencer directement, je te propose, en direct dans le cœur du sujet. Je voulais qu'on revienne sur ton parcours et sur le premier point de bascule, une décision qui a été assez difficile, le choix de se lancer dans la musique, bon, qui peut déjà être une décision, mais d'autant plus quand tu viens d'avoir fait de prépa, puis de master à Sciences Po. Pas forcément le plus évident de se dire je suis diplômé de Sciences Po mais je vais partir dans la musique. Comment s'est fait ce choix déjà de ton côté, alors que par ailleurs tu dis souvent que tu es une grande timide, que c'est pas vraiment dans ton caractère de se lancer là-dessus, de se lancer. C'est assez surprenant, comment est-ce que ça s'est fait?
En fait, c'est vrai que pour moi c'est un des trucs les plus surprenants que j'ai jamais fait de ma vie, et même moi encore aujourd'hui je sais pas ce qui m'a pris. Mais disons que j'ai fait donc toutes ces années d'études et j'étais vraiment, en plus j'étais l'élève, bonne élève, mais quand même qui est au fond de la classe parce qu'elle veut pas qu'on lui dise de prendre la parole, tu vois. Genre l'idée d'être là par exemple, c'est quelque chose de complètement fou pour moi. Et donc j'avais cette vie tracée devant moi, mais en fait il me manquait quelque chose et je sais pas comment l'exprimer. C'est, en fait, je voyais pas d'autre solution pour moi que d'un moment oser faire le rêve que j'avais mais que je gardais vraiment en moi, tu vois.
C'est quoi, c'est une peur de regret, c'est une peur de de se retourner à 40 ans et se dire merde, j'aurais dû faire ça à mes 20 ans et...
Je ne l'aurais pas mieux dit. Okay. Non mais c'était vraiment ça, c'est que en fait je me disais à chaque fois mais Alice, tu connais personne dans la musique, j'étais pas même pas dans un groupe de rock, je savais même pas jouer, enfin j'avais appris un peu sur YouTube mais j'ai jamais pris de cours de musique, enfin il y avait vraiment aucune raison et je me disais c'est pour les autres. C'est pas un rêve pour moi, Alice, qui en plus a réussi plutôt bien ses études, ses parents sont contents, enfin tout était... Et en fait, non, c'était impossible. Je pense que quand j'ai reçu mon diplôme de Sciences Po, justement, et que je voyais tout le monde heureux autour de moi, et je peux pas dire que j'étais pas heureuse, j'étais contente, mais je sentais que c'était pas le bonheur qu'on doit ressentir quand on est dans, je sais pas, la voie dont on a toujours rêvé, tu vois.
Je trouve ça assez... assez passionnant parce que, bon, pour dire, j'ai fait la même école du coup que, ouais. que toi, certains le savent peut-être, mais en général, d'ailleurs, dans un certain nombre de grandes écoles, moi, j'ai vu à Sciences Po, j'ai vu certaines personnes, y compris des potes, qui parfois donc, étaient diplômés d'une grande école et faisaient parfois des choix d'orientation où je sentais, en discutant avec eux, que ce choix-là d'orientation, mmh. donc d'aller partir dans de la finance ou partir dans certains trucs, était guidé par une forme de bon, c'est la suite logique et il faut le faire. Et quand je creusais avec eux et que j'en discutais, je percevais aucune passion et même aucune réelle envie. Toi, ça demande un certain courage de sortir d'une vie potentiellement assez tranquille, on pourrait se dire, vas-y, je sors d'une grande école, j'ai fait un truc, je vais continuer, je vais trouver un taf. C'était quand même un choix dur, j'imagine.
C'était, en fait, je crois que le plus dur... C'était pas forcément quand j'ai pris la décision, parce que c'était dur, mais j'avais en même temps des années de pensée derrière moi où je me disais que c'était quand même ce que je voulais. Et donc, quand je l'ai dit au début, j'ai aussi ressenti un peu le frisson de l'aventure, tu vois. OK, je vais faire ça. Je me suis dit, j'ai un an pour sortir un CD. Ouais. Et si ça prend pas plus que ça, je retournerai ouais. à ma vie toute parfaite, ouais. quoi. Et je pense que là où ça a commencé à être dur, c'est quand je me suis lancée et que j'ai vu à quel point c'était compliqué. Parce que c'est pas non plus tu veux faire de la musique et dingue et bam tu te retrouves je sais pas à la Cigale ou ouais. c'est vraiment tu te fais arnaquer, en plus tu connais personne, donc moi j'avais fait des demandes sur les réseaux sociaux, parfois je suis tombée pas sur les bonnes personnes et il y a plein de choses qui se sont déroulées de manière assez compliquée ouais. et c'est là je pense où j'ai dû refaire une sorte de deuxième choix, deuxième point de bascule où je me suis dit OK, est-ce que tu t'accroches quand même si là c'est vraiment très dur et plus dur que toutes tes études d'avant, en fait.
Ouais. Donc, on parlait de ce choix de en fait, après Sciences Po, au final, partir dans la, ouais. dans la musique, donc un domaine qui n'a pas forcément grand-chose à voir. Dans ton cas aussi, au-delà de ce choix d'orientation qui est forcément majeur, il y a une question aussi de sentiment de ne pas être légitime, on pourrait dire, dans le domaine de la musique. On l'a dit, t'as appris un peu sur le tas avec YouTube, etc. T'as aussi une forme de complexe au début par rapport à ta petite voix, comme tu l'as décrit ouais. Parfois, et sentiment de se dire, en fait, j'ai pas la voix pour faire de la musique. Comment est-ce que tu ressentais ce truc-là ?
C'est complètement ça, et j'aimerais dire que c'est complètement parti, mais le sentiment est toujours un peu là, au fond. Et oui, en fait, c'était... En fait, je pense que depuis que je suis enfant, j'aime faire de la musique. J'adorais chanter, j'adorais écrire. Je passais mon temps à faire ça, et j'écoutais de la musique et je chantais par-dessus. Mais pour moi, j'écoutais pas mal de rock. C'était vraiment des gens qui poussaient, tu vois. Et genre Queen, ou ouais. tu vois, t'es là à côté, bon. et c'est vrai que, ouais, avec ma toute petite voix et pas non plus les plus grands skills d'instrument, parce que... en plus, quand tu rentres dans le monde de la musique, tu rencontres plein de gens qui sont des excellents instrumentistes. Et moi, à côté, j'ai appris sur YouTube, je suis pas forcément... Et donc, du coup, tu te sens pas du tout... Enfin, tu te dis, pourquoi moi, en fait ?
Mais ouais. Non, mais non, vas-y.
En fait, je crois que, en fait, à un moment, juste, je me suis dit... Peut-être que je n'ai même pas la légitimité de le faire, mais en soi, j'ai qu'une vie, et qu'est-ce que je vais faire d'autre, vu qu'il n'y a que ça qui me fait rêver ?
C'est ce qui est par ailleurs... Je pense que c'est en plus appuyé par des retours, des échos qu'on peut avoir parfois quand il y a un nouvel artiste qui émerge, qui est l'idée de dire, on va essayer de trouver une comparaison. On va ouais. dire, en fait, tel artiste qui émerge, ah ouais, mais c'est un peu comme tel artiste. Toi, tu as eu un peu ça avec notamment Angèle sur certaines comparaisons qui ont été faites. C'est quelque chose qui n'est pas évident, j'imagine, pour s'affirmer, d'être sans cesse comparé à un ou une autre artiste sous prétexte qu'il y aurait deux, trois points communs sur des choses.
Surtout, c'est clair. Mais je pense qu'il y a plein de filles dans la pop qui ont été comparées à Angèle. Hein. Ouais. Et c'est pas la faute d'Angèle, c'est la faute de journalistes ou de gens qui ne comprennent pas qu'on peut être plusieurs femmes et faire de la musique et pas toutes faire la même chose. mais c'est vrai que, je me souviens que je venais de sortir mon premier EP et qu'elle, évidemment, quand elle est arrivée, ça a fait un truc incroyable. Et que il y avait un journaliste qui m'interviewait pour un festival et qui me disait « Alors, Alice et moi... vous êtes contente de jouer sur le même festival qu'Angèle ?»
Ah ouais, c'est vraiment le... Ouais.
Oui, je disais oui, mais sinon... Et à chaque fois, il ramenait Angèle, il disait « T'as dit que tu voulais sortir avec un rappeur. Angèle, c'est la sœur d'un rappeur, est-ce que ça te fait quelque chose ?»
Ah ouais, d'accord.
À la fin, t'es là, bon...
ouais, effectivement, c'est pas évident. Donc, il y a eu ce truc-là, et tu racontes qu'il y a eu un déclic, c'était aussi de comprendre que t'as eu des artistes... Enfin, tu racontes notamment le cas de Vanessa Paradis. Alors ça, c'était avant que tu te lances en soi dans la musique, mais... De voir quelqu'un comme Vanessa Paradis qui a une voix qu'on pourrait, c'est bizarre de le dire comme ça, mais qu'on pourrait pas qualifier de forte dans le sens justement qu'on décrit là. Ça t'a aussi aidé peut-être à comprendre qu'il y avait des choses possibles, chacun avec son timbre de voix et avec son truc.
Complètement, en fait. Mais encore aujourd'hui, pareil. Hein. En fait, ouais. C'est fou parce que encore aujourd'hui, parfois, j'écoute ces chansons et ça me fait du bien. Parce que quand j'étais petite, alors il y a aussi, même si mes parents ne sont pas du tout dans la musique, mon père aime bien chanter et il aime aussi trop le rock. Donc c'est, il, okay. quand il joue à la guitare, lui, pareil. Voilà, c'est ça. Il y va. Et donc, ouais, moi, j'avais tous ces modèles-là. Et un jour, je découvre Vanessa Paradis. Je me souviens, hein, je devais avoir 8 ans. J'étais choquée. Je me suis dit, on peut chanter en simplement racontant quelque chose, en racontant une histoire, en étant simple. Et ça peut quand même toucher les gens. Et je l'ai gardé dans ma tête, hein, vraiment.
C'est fort, c'est fort, c'est fort. Vanessa Paradis, qui était du coup, pas une influence, mais quelqu'un qui a joué un rôle minima dans cette mise en confiance de façon assez importante. Et c'est vrai que ouais, le fait de s'affirmer dans ce domaine-là, ça passe aussi par parfois des modèles ou des gens comme ça qui peuvent être présents. Et ce que je trouve au passage assez passionnant, c'est que du coup, dans ton cas, enfin tu vois, on le voit, tu commences à rencontrer un vrai succès. Mais il y a toujours, tu le dis, cette crainte ou cette comparaison qu'on peut faire. Et c'est, enfin, je trouve que c'est intéressant de voir que même dans ton cas, quand tu réussis, tu peux avoir ces complexes-là qui restent présents, quoi.
Je ne sais pas si c'est lié au monde de la musique ou si c'est juste le monde du travail ou le monde en général, mais c'est vrai que de toute façon, peu importe où t'en es, j'ai l'impression qu'on va quand même toujours te comparer et tu vas toujours te sentir aussi... Enfin, il y a les réseaux, etc. Tu vas toujours te dire qu'il y a mieux que toi. Enfin, en tout cas, moi, j'ai ça, c'est certain. Et donc, il faut lutter contre soi-même presque, je pense, pour aller vers là où on veut. Enfin, moi, en tout cas, je fais tout le temps ça et j'essaye de me dire que peut-être que à une beaucoup plus petite échelle, comme Vanessa Paradis m'a donné envie de faire de la musique, peut-être que moi, il y a des gens qui seront là à faire des trucs chez eux, qui ne seront pas des grands pros et qui pourraient se dire « Ah, j'ai envie de le faire aussi », et je les encourage, quoi.
Très, très bien. Bah, j'espère que le message est passé pour ceux qui écoutent. Et je voulais passer un peu plus loin sur le deuxième point de bascule.
Ouais.
C'est une réussite pour toi, une surprise, peut-être pour certains, cette réussite, c'est d'avoir réussi à remplir la célèbre salle de concert qui est la Cigale, alors que personne, peut-être dans ton entourage, n'y croyait vraiment, en tout cas, à ce point. La Cigale, c'est une salle importante. Je ne sais pas la capacité, mais c'est quand même assez...
1002.
C'est, quand même, c'est gros, hein, faut dire les choses, ça ne se remplit pas comme ça. Surtout qu'à cette époque, tu avais sorti un EP, mais tu n'avais pas encore sorti d'album.
Exactement.
Donc c'était d'autant plus difficile. Certains disaient que tu ne fais pas La Cigale sans album et il ne suffit pas d'un EP, de, entre guillemets, quelques sons pour remplir La Cigale. Certains ne voulaient pas non plus ouvrir l'espace duo. Enfin bref, il y avait plein de choses là-dessus sur La Cigale. Comment est-ce que ça s'est fait, déjà, cette décision de se dire « je vais faire La Cigale » et comment est-ce que tu as vécu cette période-là qui est forcément difficile? C'est un défi qui est majeur.
Ouais, bah, je pense que en fait, quand j'ai commencé dans la musique, du coup, j'avais pas de manager, pas d'attaché de presse, pas de tourneur, donc ceux qui trouvent les concerts. Et donc, c'était un peu... Enfin, je faisais un peu tout moi-même. Et quand j'avais fait une salle qui s'appelle La Maroquinerie, qui avait été déjà remplie, je m'étais dit que...
Qui est plus petite, il faut dire, que La Cigale.
Petite, voilà. Et je m'étais dit, tiens, dans un an, j'aimerais faire La Cigale. Et en fait, c'est comme le fake it until you make it, un peu. Je me suis dit, je vais l'annoncer et je vais le faire. Et comme quand j'ai, après mes études, j'ai décidé de faire la musique, je me suis dit, je vais me donner pour que ça arrive et on verra. Mais c'est vrai que toute mon équipe, même les professionnels qui m'ont rejoint après, me disaient, décale-la, ne la garde pas. Et c'est vrai que là, je ne sais pas ce qui m'a pris, en fait. Parfois, je ne me comprends pas tout le temps, mais je n'ai pas eu envie de l'annuler. C'était mon rêve de jouer dans cette salle. Et, voilà.
Et du coup, comment ça s'est passé pour les gens qui ont la suite de l'histoire? Comment ça s'est passé?
Bah, en gros, ce qui s'est passé, c'est que moi, déjà, je sais que j'ai investi dans des affiches. Enfin, j'ai tout fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire, pour que les gens me remarquent.
Et, je suis là, je fais La Cigale.
J'avais tout ce que je pouvais faire pour que ça puisse être repéré, quoi. Et puis surtout, on s'était quand même dit, donc avec mon équipe qui m'avait rejoint en cours de route, qu'on n'ouvrirait pas, comme tu le disais, le haut, enfin les balcons du haut. Donc déjà, on devait remplir vraiment beaucoup moins. Genre 600 déjà. Moi, c'était déjà pas mal. Enfin, ou 800 quoi. Et en fait, finalement, bah le jour même. Mais c'est vraiment le jour même, hein. C'est qu'encore la veille, on me disait que ce serait pas rempli et qu'on remplirait pas le haut. Et en fait, le jour même, c'était complet et on a ouvert aussi le haut. Et je peux te dire que quand je suis arrivée sur scène et que j'ai vu ça, parce que j'étais même pas au courant, en fait, personne ne me l'a dit pour pas me stresser. Donc, dans les
histoire loges... Histoire, ça me vient stresser quand t'arrives sur scène.
Personne m'a dit, on a tout rempli. Et donc, j'arrive... Et là, bam, en haut, en bas, partout, des gens partout. C'était incroyable.
Et c'est intéressant parce que du coup, c'est une prise de risque majeure qui a été prise à ce moment-là. Tu considères que c'est quelque chose d'essentiel, entre guillemets, pour progresser dans ce milieu-là qui est la musique, où on le sait, il y a une très grosse concurrence, c'est un milieu qui est très dur à tout point de vue. Quel conseil est-ce que tu donnerais au final à ceux qui veulent se lancer dans la musique?
Alors, c'est sûr que prendre des risques, en fait, pour moi, c'est obligatoire. Et c'est très dur, justement, quand, comme moi, t'étais celle qui était au fond de la classe et qui prenait pas trop de risques, tu vois. Mais comment, enfin, je ne sais pas le dire en français, mais le fake it until you make it, quoi, le faire un peu semblant dans le sens, ouais. Se forcer et croire en soi, parce que personne d'autre ne va le faire pour toi, en fait. Tu es la personne qui porte ton projet, donc il n'y a que toi qui peux rêver grand pour toi, tu vois. Donc à un moment, il faut s'autoriser à rêver et il faut se donner des objectifs et y aller, quoi.
Et le fake it until you make it, c'est... Donc effectivement, c'est un terme qui a été beaucoup popularisé, ouais, par des start-upers aux États-Unis et tout qui utilisaient ce terme, mais qui disaient en gros, si tu veux vendre quelque chose, quoi que ce soit, même si ce n'est pas encore tout à fait prêt, ouais, pour l'instant, bah, tu peux en fait le bidouiller et faire, donner le plus possible l'impression que c'est prêt ou que ça va être prêt.
Exactement.
Alors qu'en fait, ça ne l'est pas forcément. Toi, dans ton cas, il y a eu la cigale, on en a parlé. Il y a eu d'autres choses. Enfin, je dirais, est-ce que même dans les rapports avec, je sais pas, des producteurs, des sortes de choses, il faut...
Ouais.
On sait que c'est un milieu qui est quand même très masculin. Il y a un certain nombre de codes. Il faut arriver à s'imposer aussi dans ce milieu-là.
Alors, c'est sûr que moi, au début, j'étais la pire... Enfin, je faisais vraiment, tu sais, le mode d'emploi de ce qu'il ne faut pas faire en artiste. Et quand je suis arrivée en studio, au début, j'étais tellement impressionnée par des gens, bon, c'est souvent des hommes, en plus, qui sont vraiment hyper dans la technique et qui connaissent tellement tout de A à Z. Donc, moi, j'arrivais et, en fait, au début, on m'expliquait que c'était comme ça et je disais oui. En fait, je pense que... aucun artiste n'a la solution, mais par contre, la seule chose que tu peux faire en tant qu'artiste, c'est la musique qui te ressemble. Mmh. La seule chose que tu peux faire pour essayer de donner une chance à ton projet, c'est juste être toi-même. Et moi, ça, au début, je ne l'ai pas forcément compris tout de suite. Donc, ça m'a fait perdre du temps parce que j'acceptais un peu tout en studio, j'avais du mal à m'imposer. Et maintenant, je sais que quand je rentre en studio, même si avant, je suis stressée, quand je rentre, je suis là pour faire ma musique et, ouais, je sais, tu vois. Et donc, je suis là, toujours avec le sourire, hein, mais, ouais, mais je sais que c'est pour faire mon truc. Quoi.
Et tu t'affirmes aussi... là-dessus, quoi. Si on avance un peu, j'aime bien, en général, dans ce format-là, concentrer aussi sur une rencontre qui a pu être, ouais, marquante pour la personne qu'on reçoit. Je voulais qu'on vienne sur une rencontre marquante, ta rencontre avec Charlotte Cardin, qui est une chanteuse canadienne,
ouais,
connue notamment au Canada. Cette rencontre, elle s'est faite via une surprise. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire et comment ça s'est fait?
C'était dingue, en vrai, parce que j'avais sorti qu'un EP. Et vraiment, à cette époque, il n'était pas connu. Enfin, à Paris, j'avais rempli une petite salle. Enfin, c'était vraiment
niche. C'est confidentiel
niche,
encore.
Voilà. Ouais. Et en fait, donc Charlotte Cardin écoutait ma musique, notamment ma chanson « Filme-moi ». Et donc, je l'avais vue sur les réseaux, d'ailleurs, puisqu'elle l'avait partagée. Mais voilà, c'est tout. Et en fait, il y a une équipe canadienne qui m'a contactée pour participer à une émission, en fait. Et c'était une surprise. Donc, le principe de l'émission, c'est l'artiste est invité et ses chansons préférées sont jouées devant lui.
Okay.
Et donc, en fait, ils m'ont fait aller là-bas. C'est extrêmement regardé, c'était ma première télé, c'était la, ouais, première fois que je faisais
au Canada,
un direct
du coup.
Au Canada, et je suis arrivée et j'ai chanté cette chanson devant elle. Et en fait, grâce à ça, ça m'a ouvert énormément de portes après. Là-bas, j'ai fait les Francofolies à Montréal, enfin, je suis retournée plein de fois jouer là-bas, et en fait, je sais que ça m'a vachement aidée dans ma carrière aussi.
Ouais, donc gros coup de boost là-dessus. Et en parlant de médias, justement, on en vient au quatrième point de bascule. Il y a eu aussi une question importante. On en parlait avant même le début, ouais, de cet échange qu'on a là. C'est dans ce travail d'artiste, il y a la confrontation aux médias. Je dis confrontation, on l'a, ouais, vu, ça peut être pas toujours le plus évident. Et toi, il y a eu notamment ça avec une interview filmée dans un média qui est très regardé, mm-hmm, en ligne. Tu y es allé au naturel comme ça, tu t'es pas forcément trop poser de questions, en tout cas tu l'as fait comme ça,
ouais,
mais ça s'est pas passé comme prévu.
Oui.
Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement quelles ont été les conséquences et c'est, je pense, une question importante sur les médias.
C'est une question très importante, c'est mon anecdote que j'aime le moins, mais en vrai... Si...
On va essayer d'en parler le mieux possible.
Non, mais en vrai, si, c'est important, et en plus j'en ai quasiment jamais parlé, je crois, ouais, que c'est la première fois que j'en parle vraiment, parce que parfois, quand t'es artiste, t'as l'impression qu'il faut toujours montrer que le positif, mmh, et dire « regardez tout ce qui se passe bien », mais en vrai, c'est vrai que j'avais fait cette interview en me disant... Enfin, en fait, aujourd'hui, enfin, souvent, voilà, on est maquillée, on est apprêtée. Et moi, je ne m'étais pas trop maquillée. J'étais allée naturelle, sans trop poser de questions, sans travailler l'interview. Et en plus, j'étais très stressée ce jour-là. Et il y a plein de choses qui n'allaient pas. Et en fait, je me suis pris une vague de haine sur mon physique. Je ne m'y, okay, attendais pas du tout. Parce que la haine sur ma musique, limite, je peux plus l'encaisser, même si c'est dur. Mais tu te dis, bon, bah, la musique n'est pas du goût de tout le monde. Mais alors, mon physique, je ne peux rien y faire. Je suis pas... Enfin, je veux dire, je...
Ouais.
Et puis, j'avais pas pensé qu'on pouvait m'attaquer sur ça. Et ouais, et donc, en gros, c'était sur mes dents, parce qu'ils les trouvaient trop jaunes. C'était sur mes yeux, qui avaient l'air de loucher, apparemment.
Il y avait toujours un truc, dans tous les cas.
Voilà. Ouais, sauf que c'est allé très loin, parce qu'ils, ouais, sont même allés sur mes comptes perso. Ils ont même parlé à mon père et à mon frère pour dire comment tu peux, wow, avoir une sœur si moche. Et en,
quoi,
fait...
Quoi?
Non, mais c'était, ouais, dingue, parce que je me suis dit, mais je suis là pour faire de la musique. Et jamais dans ma vie, j'ai pensé que le physique pouvait être si important par rapport à la musique. Ouais. Et alors déjà que moi, prendre la parole, c'est pas toujours simple. Ouais. Je peux te dire qu'après cette interview-là, pendant une semaine, j'étais... Hop, et je pouvais plus sourire, j'étais dans mon coin. Je me suis dit que j'arrêtais, quoi.
C'est d'ailleurs quelque chose qui est assez fou dans les réactions, mais qui fait aussi écho à des choses qu'on avait entendues dans l'actualité. On peut parler de Hoshi, qui a eu... Ouais. On l'avait reçue il y a quelques semaines ici. Elle avait eu le même genre de choses, de réactions sur le physique, alors qu'on vient pour parler de musique. Et ce qui n'a vraiment pas de sens à tout point de vue. Pour toi, c'était quoi ? C'était dur ? C'était un moment, du coup, de remise en question sur le fait de faire des interviews, sur le fait de... Alors, visiblement, on t'en fait quand même, parce qu'heureusement, sinon, tu serais pas ici. Mais c'est vrai que ça fait partie du métier et c'est pas toujours un aspect qui fait plaisir et qui peut parfois faire peur aussi, quoi.
Ouais. Bah, honnêtement, je pense que c'était un des aspects que j'avais le moins pris en considération quand je me suis lancée dans la musique. J'avais plein de peurs, mais j'avais pas du tout pensé à ça. Et j'aurais peut-être dû plus, en tout cas, m'y préparer au fait d'être devant. Parce qu'en fait, être sur scène me fait pas peur parce que c'est dans l'instant, c'est spontané. Alors que ce genre de trucs, parfois, ça peut m'inquiéter. Même si là, je me sens bien.
Mais parce que... Il y a une bougie sur la table. Vraiment, les ambiances,
j'ai vu la bougie. Tout de suite, je me suis dit, ça va bien se passer. mais oui, c'est vrai que ça m'a quand même vachement fait poser de questions. Et au début, j'ai refusé toutes les interviews filmées, d'ailleurs, pendant un petit moment. Ouais. Aux grandes dames de mes équipes qui étaient là. Alice, il faut faire de la promo quand même.
Ça ne suffit pas la presse écrite ou faire d'autres choses.
Et j'ai décidé déjà maintenant de plus me préparer, par contre, de me sentir bien, de me mettre en forme pour que quand je sois sur place, je sois sûre de me sentir vraiment bien. Mmh. Et aussi simplement de plus trop regarder les commentaires et de plus le prendre autant personnellement. Et t'y arrives quand ça t'est arrivé plusieurs fois. Mais la première fois, c'est dur. Hein, quand même.
Ouais. Et il faut apprendre à vivre avec, parce qu'on le voit, c'est surtout sur les artistes femmes qui sont clairement la cible de ça. On voit très rarement, voire jamais, ce genre de choses sur des garçons. On voit que c'est beaucoup plus important chez les femmes, quoi. Donc c'est une exposition, on imagine, qui est forcément dure pour les artistes. Et comment tu le gères, ça ? Parce qu'au final, c'est une question, par contre, que... tout un tas de personnes visibles peuvent avoir. Toi, comment tu le gères ? C'est quoi ? Tu lis pas les commentaires ? Est-ce que t'en es vraiment capable ? Est-ce que t'y arrives vraiment ? Je sais que c'est jamais facile. Comment tu fais ?
Bon, oui, je les lis quand même en vrai. Mais disons que j'essaye quand même. Par exemple, s'il y a vraiment une vidéo que j'aime pas trop et que je le vois, je vais pas m'attarder quand même dessus et je vais moins lire. Parce que la première fois, évidemment, j'ai tout décortiqué de A à Z et j'étais vraiment en larmes pour chaque petit commentaire. Ouais. Plus maintenant. Et j'essaye d'en rire aussi. Franchement, c'est pas mal de prendre un peu de tout prendre un peu plus à la légère en disant que... Puis je sais que je suis pas la seule, en fait, aussi, maintenant. Enfin, peut-être qu'au début, j'avais l'impression que c'était vraiment ciblé sur moi. Ouais. Et en entrant dans le monde, en tout cas de la musique, j'ai vu tellement d'artistes à qui c'est arrivé que ça m'a fait... Enfin, beaucoup de femmes, mais ça m'a fait quand même un peu me dire c'est pas moi particulièrement qui a un problème physique.
Tout le monde est ciblé. Non, mais c'est vrai. Tout le monde en est victime. Et donc ça fait aussi... relativiser en tout cas le plus possible le genre de truc, quoi. Et on en vient au cinquième point de bascule que je voulais voir avec toi. C'est en l'occurrence un son que t'as sorti qui s'appelle Je veux sortir avec un rappeur, qui est un titre de ton deuxième EP qui s'appelle Frénésie. C'est toujours un des plus gros succès, hein. Clairement, c'est un des sons qui a fait avec Filme-moi notamment, mais qui a vraiment popularisé ton univers et ce que tu fais dans la musique. Ton premier EP, c'est un EP qui était assez mélancolique, je ne sais pas si c'est un terme que tu utilises, mais qui était clairement dans ce style-là. Et là, avec ce son-là notamment, on est sur on pourrait le dire, peut-être un peu un autre style, ou en tout cas, ça a pu être interprété comme ça. Tu peux raconter déjà un peu de quoi parle de sortir avec un rappeur, pour commencer, que tout le monde situe
avec plaisir. Oui, en fait, tu as raison, mon premier EP était plus mélancolique. Même si je mettais pour moi, par exemple, quand je dis filme-moi, regarde-moi, filme-moi, je trouve qu'il y avait une petite touche quand même de plus de piquant, je ne sais pas comment le dire. Et je veux sortir avec un rappeur, c'est que je pense que j'étais dans ma chambre et que je découvrais le rap, en fait, parce que j'en ai toujours un peu écouté, mais j'étais plus dans le rock et après la chanson française. Et là, à un moment, ça m'a plus passionnée. Ouais, je me suis vraiment mis dedans à fond. Et je me suis dit, c'est fou, les rappeurs, c'est un peu les nouveaux baby rockers, enfin, à l'époque en tout cas. Et ils parlaient tous de leur conquête avec les meufs. Et je me disais, et si une fille chantait, une fille de la pop disait, moi, j'ai envie d'être avec un rappeur, quoi. Et je savais en plus que ça allait peut-être un peu choquer. Et j'avoue que ça faisait partie du plaisir, un peu comme tous les points de bascule dont on parle, le fait de tenter un petit truc qui a un tout petit peu osé, tu vois. C'est ce que je trouvais intéressant. Et voilà. Mais par contre... Si t'écoutes la chanson jusqu'à la fin, je dis que justement, à la fin, je me fais rejeter par le rappeur parce que je suis une fille de la pop et qu'en fait, ça marche pas, quoi. Et ça, les gens, ils le savent pas toujours, mais...
Ouais. Et il y a eu aussi, je pense, sur ce son-là, une sorte de... peut-être de mauvaises interprétations aussi de ce qu'on entend par, par le son, parce que tu as eu des, pas des critiques, mais si des retours, certaines personnes qui disaient, ah non, en fait, enfin ouais, même parfois des insultes ou des choses que tu as pu, recevoir, donc ils disaient, ouais, c'est quelqu'un qui va fantasmer sur les banlieues ou sur des conditions particulières ou quoi. Tu vois, ce que tu expliques, c'est que c'est, en fait, c'est pas ça qui t'intéressait quand tu parles de rappeur, c'était pas cette dimension-là, c'est,
En fait, moi, ce qui m'a passionnée dans les rappeurs, c'est que j'ai trouvé que c'était un peu les poètes modernes. Parce que moi, j'avoue, j'adore la poésie, mais limite, j'osais pas le dire avant parce que c'est pas hyper cool, tu vois.
Ouais.
Et en fait, d'un coup, t'as les rappeurs qui arrivent, et pour certains, qui font de la poésie, en fait, ils font des allitérations, ça sonne bien, ils trouvent des beaux mots, et c'est mis en avant, c'est le texte qui est mis en avant, le premier truc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est des sensibles, c'est des hommes sensibles, et je voulais un rappeur pour être avec quelqu'un qui souffre, qui raconte, qui parle, et c'est ça, en fait, que je cherchais. Et oui, dans les commentaires, mais il y en a même qui s'est allé en vrai jusqu'à me dire que je méritais d'être violée et tout parce qu'ils imaginaient que. Enfin, je sais pas pourquoi, en fait, ça les énervait autant, mais tant mieux. Limite, eux, pour le coup, ça, je l'ai pas trop mal pris. Je me suis dit, c'est bien qu'ils s'énervent. Ouais. Ça prouve qu'il fallait le faire, ce son.
Ouais. Non, mais c'est vrai, il y a aussi une dimension de faire réagir. Alors, sans pour autant souhaiter ce genre de commentaires, ça, loin de là, mais ça montre que ça fait réagir et donc il y a une forme de provocation que tu évoques. Pour toi, peut passer par la musique aussi, d'aller, je veux dire, titiller, c'est vraiment un mot de boomer, mais non, ouais, elle a l'air de provoquer quelque chose dans l'échange.
Complètement.
Qui est assez important. Et c'est aussi une façon plus large, une question que je voulais te poser, c'est sur l'évolution de ta musique. On l'a dit, un son comme celui-ci, c'est quelque chose qui peut être différent de ce que tu avais sorti sur ton premier EP. Et tu as une carrière qui est relativement récente encore. Le public te découvre au fur et à mesure. Comment est-ce que tu fais le choix, tu vois, en tant qu'artiste, de dire, bah non, mais là, les gens m'ont connu pour ça, je vais continuer à faire ça, ou alors non, là, il faut que je change parce que je veux changer. C'est forcément une question que se posent beaucoup de rappeurs, j'allais dire, mais d'artistes, du coup, littéralement. Toi, dans ton cas, comment ça s'opère, ces questions-là?
C'est une super question parce que, en fait, je crois que moi, je me pose les questions après, parfois, où je me dis, oups, j'espère que j'ai pas fait n'importe quoi. Mais le truc avec la musique, pour moi, c'est que c'est 100% naturel. Et c'est tellement quelque chose que j'aime faire que, en fait, j'écris tout le temps et je suis tout le temps en train de composer. Et en fait, je ne réfléchis pas. C'est le petit truc magique, quand même, de la musique. Je réfléchis pour plein d'autres trucs autour, mais alors vraiment, pour la création, je ne réfléchis pas. Et c'est souvent, d'ailleurs, avec le recul, que je me dis « Ah, mais j'étais plus dans cette phase à ce moment-là de ma vie, et c'est pour ça que les chansons sont comme ça. » Je pense que mon premier EP, j'étais plus rêveuse, mélancolique, et ça commençait en plus, j'étais un peu plus effrayée. Et pour le deuxième, je dirais que j'avais déjà envie un peu plus de provoquer, parce que je commençais à prendre grave plaisir à ça, tu vois.
Non, mais ça montre aussi une sorte de confiance en toi qu'on évoquait, qui n'était pas forcément évidente quand on avait le début de ton parcours, où tu disais que tu étais quelqu'un de très réservé, très timide, etc. Avec, en fait, une visibilité que tu as aujourd'hui, et le fait de s'en saisir pour se dire, vas-y, je vais aller un peu rentrer dedans sur certains trucs et oser le faire, quoi. Donc c'est assez majeur. Et là, sur l'évolution, on parlait du fait de fake it until you make it, on parlait de cette volonté de prendre des risques. Comment est-ce que toi, tu vois l'évolution de ta carrière à partir de là, dans les prochains mois, prochaines années, je ne sais même pas à quelle échelle de temps, comment tu...
Alors, je ne pense pas encore en années. Je suis un peu en train d'essayer de
d'avancer
au fur et à mesure, mais disons que là, je sais que je suis en train de travailler sur mon deuxième album. Mon premier album, j'ai adoré travailler dessus, mais bon, c'était en pleine période de Covid, donc ça a été un peu compliqué. Et pareil, au lieu de me dire... peut-être d'être un peu déçue. Je me suis dit, non, en fait, je vais juste continuer. En fait, moi, ma seule façon d'y arriver dans la vie, c'est juste de ne pas m'arrêter, sinon je fais des crises d'angoisse. Donc, on continue, quoi. Et donc, ouais, là, je bosse à fond sur mon deuxième album. J'essaye de encore plus être moi-même, je ne sais pas comment le dire autrement. Ouais, c'est ça, c'est ce sur quoi je me concentre le plus. Et je pense que c'est ça, enfin, être moi-même aussi, c'est un peu une quête de... Je me dis que plus je serai moi-même, et je baisserai les barrières, plus je ferai une musique qui pourra toucher les autres, parce que ça les incitera aussi à être eux-mêmes, quelque part. Et je me suis quand même encore cachée parfois dans ma vie, et là, j'essaye de moins me cacher.
Et sur le fait d'être toi-même, ça, donc, dans ton cas, c'est pas associé par le fait de faire de la musique quand tu voulais faire de la musique, et pas faire un autre métier plus classique, on pourrait dire. Tout en ayant, on l'a dit aussi, des craintes que tu avais sur ta petite voix, comme tu l'appelles parfois, sur ton angoisse aussi que tu peux avoir dans certains moments. Quel message peut-être est-ce que tu voudrais faire passer à ces artistes, ou d'ailleurs au-delà d'artistes, personnes qui ont une passion, qui se disent « j'aimerais le faire », mais qui se disent aussi « mais en fait, je ne peux pas le faire ou je ne me sens pas capable de le faire ou ça me paraît tellement dur en raison de tous ces trucs que moi j'ai, de mes défauts potentiels ou mes difficultés ou mes choses. Qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à avancer, en tout cas, là-dessus?
Bah, je pense que moi, ce que je leur dirais, en tout cas, qu'on ne m'a pas dit, mais que j'aurais bien aimé qu'on me dise, c'est que justement, ils ne sont pas du tout seuls. Parce qu'en en fait, on pense être le seul à douter à ce point et tout, mais tout le monde a ça, je pense. Mmh. Et même les gens qui ont l'air d'avoir extrêmement confiance en eux, bah, en fait, ils sont juste en train d'essayer à leur façon, tu vois. Et donc, peut-être de leur dire que déjà, tout le monde a peur de tenter sa passion. Enfin, c'est terrifiant, en vrai. Surtout parce que t'aimes tellement ça, t'as encore plus peur de rater. Mmh. Alors que, bon, des trucs où tu t'en fous un peu, tu peux vivre comme ça. Mais mon principe à moi, en tout cas, c'est qu'on n'a qu'une seule vie et qu'à un moment... on va regretter plus tard, en fait, c'est pas possible. Donc, faut y aller et tout tenter.
Il y a aussi un truc, mais je sais pas pourquoi j'y repense maintenant, mais un retour que j'entends parfois, c'est le fait de se dire, en fait, faut réaliser que tout le monde s'en fout, y compris de ce que tu fais, ce qui est ultra, enfin, cynique et tout, mais qui est ce truc de genre, en fait, quand bien même tu rates quelque chose, quand bien même machin, ok, les gens vont peut-être le voir, ok, tu vas peut-être recevoir des messages, mais fondamentalement, les gens s'en foutent un peu parce qu'ils ont eux-mêmes leurs propres soucis.
C'est ça,
ils ont oublié le lendemain la critique qu'ils ont peut-être adressée la veille envers ton projet ou ton truc. Et donc, au final, ça te fait un peu déculpabiliser ou dire, bon, de toute façon, les gens s'en foutent et voilà quoi.
C'est marrant parce que, pareil, c'est pas quelque chose que j'avais encore vraiment verbalisé, mais c'est vrai que je pense à ça parfois pour aller mieux. Ouais. Notamment, il y a une phrase que je me dis dans ma tête souvent, c'est « tu fais que de la musique, Alice ». Ouais. Une façon de dire « je suis pas en train, j'ai pas la vie ou la mort entre mes mains, et au pire, si mon message n'est pas passé comme il faut, bah, je ferai d'autres messages, et c'est que de la musique, entre guillemets. Pour moi, c'est tout, c'est ma passion, c'est ma vie. Mais au fond, parfois, il faut aussi un peu se revenir sur terre et se dire voilà, une carrière aussi, ça peut être long. Au pire, tu peux même rater un album. En fait, peut-être avoir moins peur de rater comme... Ouais. Et comme ça, bah, tu finis par y arriver.
Clairement. Alice, merci beaucoup pour cet échange. C'était super, super intéressant, c'est bien passé, ça va?
J'ai adoré.
Franchement, c'était un vrai plaisir, je pense aussi, pour tous ceux qui ont écouté. Et c'est trop bien de pouvoir revenir comme ça sur ton parcours. Je me permets d'ailleurs de le dire, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas ta musique, du coup. Donc, Alice et moi, c'est ton nom de scène, comme on l'appelle.
Ouais.
Tu fais des festivals ou des trucs cet été? Qui était sur quel genre de...
Alors, j'aimerais bien, mais en fait, je suis encore vraiment à fond. Là, je suis en studio tous les jours.
Okay.
Je suis vraiment sortie de ma grotte pour toi.
merci beaucoup.
Voilà, je bosse sur mon album. Les concerts reprendront plus en septembre.
Très bien. Ouais. On a hâte de voir tout ça. Et en attendant, du coup, c'est partout, hein, soit en disque, soit sur les plateformes de streaming. Alice et moi, n'hésitez pas, c'est très, très sympa. Je recommande vivement. Et merci encore pour ta présence ce soir. C'était super. Super intéressant et super enrichissant. Donc,
merci
beaucoup.
À toi.
Voilà donc pour cet échange. J'espère qu'il vous a intéressé. Pour en savoir plus sur Mashup, toutes les informations sont directement en description. N'hésitez pas d'ailleurs à me suggérer, pourquoi pas, des noms d'invités. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains échanges. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.